bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter là, faut essayer.
Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous. C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir. Vous êtes bien au Canu Info du Radio Canu sur le 102.2, la plus rebelle des radios. On est ravis de vous retrouver pour une belle émission ce soir au programme.
À l'international, on parlera de la Kanaky. Ensuite, au national, on fera un point sur les dernières négociations sur l'assurance chômage. On parlera de Georges Ibrahim Abdallah, et de sa potentielle libération conditionnelle, et on finira sur les plans sociaux en cascade qui vont arriver.
Et puis au local, on va lire le manifeste féministe international pour la Palestine, et ensuite on écoutera un reportage sur la répression d'un prof syndicaliste de Saint-Étienne, et enfin on finira avec un dossier sur la grève des cheminots.
Mais tout de suite, on commence par les brèves.
Alors, depuis mardi, première brève, les agents et agentes de l'enfance et de la vie scolaire de la ville de Saint-Denis sont en grève reconductible. Il n'y a tout simplement plus de périscolaire dans cette ville, tenue par un certain Mathieu Hanotin, un socialiste, donc pas un camarade, qui ne bouge pas d'un iota pour l'instant. Les revendications sont pourtant claires. Ils veulent des embauches, la titularisation des contractuels ou, à minima, la signature des contrats de travail, puisque certains n'ont rien signé depuis début septembre. Elles veulent également la prise en compte des élèves en situation de handicap, la réévaluation de leurs primes avec la reconnaissance de la pénibilité et des locaux de qualité suffisamment grands et pas insalubres. Soutien total aux grévistes de Saint-Denis. Il y a une cagnotte sur internet que vous pouvez trouver si vous voulez les soutenir financièrement pour qu'ils puissent continuer à faire grève.
Bref, toujours, après la France et l'Espagne, la reconversion de Manuel Valls passe désormais par Bahreïn. L'ancien Premier ministre socialiste, qui ne dépose plus de mandat électif malgré une nouvelle tentative, encore raté de retour en politique en 2022, a été recruté comme consultant pour le royaume du Bahreïn. Selon Mediapart, Manuel Valls s'est rendu au Bahreïn en juillet 2024 dans le cadre d'une vaste opération diplomatique et judiciaire en faveur du royaume. Il a été rémunéré notamment 30 000 euros pour ce déplacement de 3 jours, hors frais de déplacement, avions et hôtels qui ont été directement pris en charge par Bahreïn. La vie est décidément bien dure pour Manuel Valls. Selon le média Politico, son passage par Matignon lui a déjà rapporté 142 199 euros de frais de défraiement en 2023, soit l'équivalent de 99 mois de SMIC en une seule année.
Et puis pour finir ces brèves, l'ESJ, l'école supérieure de journalistes de Paris, a été rachetée par des milliardaires réactionnaires pour la plupart ou carrément fachos. Alors j'ai nommé Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Rodolphe Saadé, alors pour préciser, lui c'est le propriétaire de BFM TV et de la CMA-CGM, la famille Dassault, Pierre Gattaz, hein, l'ancien président du MEDEF, et le groupe Bayard Presse. Ceci n'est vraiment pas une blague. Alors même si l'ESJ de Paris ne fait pas partie des écoles reconnues par la profession, ça reste quand même une des écoles les plus importantes de France. D'ores et déjà, à sa présidence a été placé un catholique traditionnaliste, Vinet d'Alençon, il s'appelle. Va donc falloir s'attendre à ce que ça devienne une usine à formation de journaleux fachos soumis aux intérêts du grand capital. Très bel avenir pour le journalisme français, déjà pas bien glorieux.
Et on passe tout de suite à...
International.
Et donc on va vous faire un petit point aujourd'hui avec un camarade kanak du NKF. Alors on les a déjà invités deux fois depuis ces derniers mois par rapport à la situation là-bas. Alors est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce que c'est que le NKF ? Et merci d'être là déjà.
Bonjour, merci à vous de nous avoir invités. Le NKF, c'est un mouvement de kanak en France. Il a pour deux objectifs. La première, informer sur la cause de notre lutte et de ce qui se passe réellement au kanaki. Le combat mené est un combat de dignité. Le peuple kanak continue de défendre son idéal pour l'indépendance de la kanaki avec tout le monde. Le corps électoral est le socle de notre citoyenneté de la kanaki et ce qui est le plus cher au peuple kanak. Nous baisserons jamais notre garde sur ce sujet. Non au dégel du corps électoral, non à l'élargissement du corps électoral et oui à la pleine souveraineté de Kanaki. Et la seconde objectif, c'est aider nos prisonniers déportés financièrement, psychologiquement et judiciairement. À l'heure actuelle, on dénombre 70 prisonniers déportés dans des conditions inhumaines en métropole. Ils ont été menottés tout le long de leur trajet, ils n'ont même pour aller aux toilettes. Ils n'ont pas pu le dire au revoir à leurs amis ou même la plupart du temps, leurs familles ne sont même pas au courant qu'ils ont été attrapés et déportés en métropole. Voilà. Et parmi ces prisonniers-là, il y a des prisonniers de droit commun qui ont dit, soi-disant, qu'ils ont été envoyés en métropole pour des réductions de peine. Après de plusieurs échanges avec eux, ils ont dit qu'ils n'ont signé aucun papier et ils n'ont pas eu de réduction de peine. C'est-à-dire que c'est des déportations illégales. Et il y a les militants indépendantistes qui ont été jugés directement d'office en kanaki en tribunal par des juges impartials et qu'ils ont 4 ans à tirer ici en métropole. Et il y a les 7 de la CCAT, dont 2 mamans qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs enfants. À l'heure actuelle, ils sont sur bracelet, mais ils sont limités à leur département et doivent pointer 3 fois par semaine. Les autres, dont le président du FLNKS, sont toujours en prison. Voilà. Ils attendent l'évolution au niveau politique en Kanaki, car la semaine dernière, il y a eu une mission de dialogue avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée en Kanaki. Cependant, ça commence à leur peser sur leur morale, car la situation dure depuis longtemps. Ils attendent que les choses avancent. Voilà. Pour revenir à peu près, grosso modo, ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu les événements du 13 mai ? Car il y a une fracture socio-économique avec une population plus aisée dans les quartiers nord de Nouméa et une population marginalisée en majorité kanak et océanienne vivant dans les quartiers nord qui sont dits les quartiers populaires. Suite au passage en force de la loi du dégel du corps électoral, des mobilisations au départ qui étaient pacifiques ont éclaté. Et des révoltes ont éclaté face à la répression coloniale. En effet, il y a un cri de la colère de la jeunesse de Kanaki qui se traduit par un ras-le-bol face à la ghettoisation persistante dans la province sud. Mais il ne faut pas oublier que les forces de l'ordre et les milices anti-Kanak ont également mis à part, ils ont tué et maltraité nos jeunes. Ils ont joué un rôle de pierre aussi, notamment en brûlant la nourriture des piquets de grève des personnes qui se mobilisent, en foutant le feu aussi à des forêts et notamment aussi des infrastructures comme les banques. Et ils ont accusé nos jeunes que c'est eux qui ont fait le coup. Notamment, il y a des preuves et des vidéos à l'appui. Mais cela est logique, car c'est comme si ils suivaient cette logique de brûler et mettre le bazar pour arriver en grand sauveur et jouer les pompiers. Voilà. Le résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, en Kanaki, le OCR n'a toujours pas levé l'interdiction de manifestation, le port de symboles comme le drapeau kanak ou de la musique indépendantiste dans les lieux publics, ce qui est clairement une atteinte à la liberté d'expression. On a toujours un couvre-feu qui est de minuit à 6h du matin. Notamment, la tribu de Saint-Louis est toujours sur verrou de 6h à 18h avec des contrôles d'identité, avec des contrôles d'identité constants. Et notamment fouille de voitures, de véhicules et des enfants. Si, je ne sais pas si vous avez pu voir des photos circuler sur le réseau. Voilà. Ensuite, à l'heure actuelle, y a plus de 10 000 salariés qui ont perdu leur emploi en Kanaky. Ça représente à peu près 750 entreprises qui ont été totalement, qui ne fonctionnent plus du tout. Voilà. Et ça a un manque à gagner de 12 à 13 millions d'euros. Voilà. Jusqu'à la fin d'année, pouvoir subvenir, le gouvernement de la Calédonie, ils ont besoin d'à peu près 63 millions d'euros. Parce que là, on court à une crise sociale et économique. Et notamment, la famine commence à s'installer dans le territoire. Où notre territoire est comparable à, où le PIB est comparable à l'une des plus grandes villes françaises. Ouais, il y a des gens qui n'ont qu'un repas par jour. Voilà. Et l'occupation des forces de l'ordre en Kanaky dans les hôtels touristiques contribue aussi à la chute du tourisme dans les îles Loyauté. Car étant donné que les hôtels de la capitale ne sont pas ouverts pour les touristes, ça veut dire que c'est un transit pour eux d'aller sur Nouméa avant d'être sur les îles Loyauté. Et du coup, ça réduit l'économie de la province des îles. Et voilà. Il y a toujours, notamment au village de Tcho, une forte mobilisation de la force de l'ordre avec un centaure dans le village de Saint-Louis où il y a le checkpoint. Voilà. Plus focus sur la province sud. La présidente de la province sud, qui est Sonia Bakès, a suspendu l'aide médicale aux personnes démunies, soi-disant pour des raisons financières et en conséquence des révoltes indépendantistes mais. Cette aide permet aux bénéficiaires de faibles revenus d'accéder aux soins sans frais. Sonia Bakès, c'est une farouche opposée. Elle est contre. Farouchement opposée à l'indépendantiste. C'est le RN ici en France plus. Et voilà, et l'afflige pour elle, c'est dans son discours, c'était une punition collective et ça affecte 26 000 bénéficiaires de cette aide-là. Voilà. Au niveau des transports en commun, ils ont repris en Nouvelle-Calédonie, mais il faut savoir que elle a pour prix de 500 francs. Le billet soit 4,18 € juste pour un allon simple, et sachant que les personnes qui prennent ça, c'est les personnes kanak et océaniennes. La semaine dernière, il y a eu la mission de dialogue qui a été présentée par la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat. Ils ont bien constaté qu'il y a une urgence financière, une urgence sociale, car ils ont peur qu'il y a des prochaines émeutes, mais des émeutes de faim. Et du coup, il y a eu beaucoup de rencontres, mais surtout avec les loyalistes, avec des jeunes loyalistes, où ils disaient qu'ils étaient en manque d'insécurité et tout. Et voilà. Et il y a le... Voilà. Et lors de cette mission de dialogue, ils soutiennent le professionnalisme des forces de l'ordre. Ils reconnaissent pas les violences policières et ils ont dit qu'ils ont fait du bon boulot. Et à l'heure actuelle, là, il y a un plan de relance économique qui va être étudié pour le Sénat. Ça veut dire que nos politiciens, que ce soit indépendantistes ou non indépendantistes, ils vont passer avant le 5 décembre ici en métropole. Ou le jour où il y a le dossier sur les ultramarins. Voilà. Le prochain événement pour nous, ce sera ce vendredi-là, en hommage à
Lyon, tu veux dire.
À Lyon, ouais. À l'illégalité. Ce sera la diffusion du film Wagnat. C'est le 5 décembre 1984 à Wagnat, dans la vallée de Yengen. Des militants kanak indépendantistes sont victimes d'une embuscade. C'est un carnage, 10 morts et 5 blessés. La tribu de Tiendanit, toutes les familles sont touchées. Le piège a été tendu par leurs voisins, des petits propriétaires de la vallée, descendants de colons terrifiés à l'idée d'être chassés de leur exploitation.
Très bien, bah écoute, merci beaucoup pour ce point d'actualité, ce triste point d'actualité sur la situation en Kanaky. On vous fera revenir assez régulièrement, c'est ce qu'on s'était dit, hein, donc on réentendra ta voix et la voix de tes camarades dans des Canu Info à venir, puisque on lâchera pas, on n'oubliera pas ce qui se passe là-bas. Merci à toi.
D'ici là, on fait une petite pause musicale avec Justice for de Backwood Sweetie.
But the gas pressure, whether I weather storms, whether my endeavor, highs and lows, ascending, descending, arc like MC Escher, the flow is texture, water in my seeds so they grow better, profess to sever every tether from an oppressor, big bitter hops, my omnipolo, Nebuchadnezzar, sun kiss, breeze through like Zephyr at my leisure, a nigga three-fifths, how could one ever at measure, lesser can exercise our right to express our displeasure, puck police, aggressors, kill a nigga at will, can a nigga get a bill, anti and George Floyd, Rakia Boyd, Tamir Rice, Michael Brown, Philando Castillo, and Dante Wright, Corinne Gaines, Sandra Bland, Elijah McClain, Andrew Brown, I could do this all day for Freddie Gray, and they be like, I thought my taser was a gun, he's trying to run, he won't comply, she's got a knife, he's got a warrant, fuck his life, with no regard, irresponsible, hold them accountable, and qualified immunity, you can't be judging jury, two records then got too comfortable, the racism is terminal, I keep the flow versatile, interpersonal, putting in the proof, remain aloof, there ain't a blue life, but like look what white supremacy do. Another day, another life slain by the pigs, they killing kids, playing politics, I'm not one for the parlor tricks. I'm married to the vision like I'm Scarlet Witch, tip of Afro pick, a black closed fist, let it be one of my kids, a soul for a soul, like I'm Thanos, dismantle the whole system, invention made by lynchmen, and why the guilty ex-cops still get their pensions, bullshit sentence or no convictions. And George Floyd, Rakia Boyd, Tamir Rice, Michael Brown, Philando Castillo, and Dante Wright, Corinne Gaines, Sandra Bland, Elijah McClain, Andrew Brown, I could do this all day for Freddie Gray, and they be like, I thought my taser was a gun, he tryna run.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est le Canu Info du lundi et vous venez d'écouter Justice for de Backwood Sweetie et on passe nous tout de suite au...
National.
Avec un point sur les nouvelles attaques contre l'assurance chômage.
Ouais, alors depuis 2017 et l'arrivée de Macron au pouvoir, l'assurance chômage n'a eu de cesse d'être attaquée. En 2019 d'abord, hein, pour rappel, c'était la réforme la plus violente qui a considérablement durci les conditions d'accès à des indemnités, évinçant des centaines de milliers de chômeurs et de chômeuses de l'indemnisation, qui ont du coup pour la plupart basculé dans la pauvreté. Cette réforme a également modifié, on se rappelle, hein, les modes de calcul du taux d'indemnité journalière, et plus d'un million de personnes ce coup-ci ont vu leur chômage baisser, allant jusqu'à moins 50% pour les plus exposés. Cette réforme a été appliquée en 2021. En 2023, donc l'année dernière, une nouvelle réforme est venue amplifier ce phénomène en introduisant une modulation possible de la durée d'indemnité vers le bas, bien sûr, en fonction de critères économiques décidés par le gouvernement. Et puis pour finir, on en avait beaucoup parlé, mais ça fait pas de mal de le rappeler, en 2024, cette année donc, la fameuse réforme de Pôle emploi transformée en France Travail, qui est venue enterrer définitivement les chômeurs et les chômeuses au programme fusion de plusieurs services, assurance chômage, RSA, emploi jeune, travailleurs et travailleuses handicapés, croisement des fichiers, renforcement des contrôles, des moyens coercitifs et des sanctions, conditionnement des indemnités chômage et du RSA à des activités hebdomadaires, privatisation partielle de la gestion des attestations employeurs et des offres d'emploi. Rien que ça. Tout ça appliqué entre 2025, enfin en tout cas à partir de 2025 et jusqu'à 2027. Alors l'idée de l'État ici est très simple, hein. Intégrer à marche forcée les chômeurs et les chômeuses, les pauvres, les précaires, dans le marché du travail, sous n'importe quelles conditions, avec en prime baisse des salaires et augmentation drastique et conséquente des travailleurs et travailleuses travailleuses pauvres. Pendant ce temps-là, les négociations paritaires entre le patronat représenté par le MEDEF, la CPME qui correspond à la Confédération des petites et moyennes entreprises et U2P, et les organisations dites représentatives de salariés, la CGT, Force ouvrière, la CFE-CGC, la CFTC et la CFDT. Donc ces négociations paritaires ont continué à exister pendant tout le début du premier quinquennat et du deuxième quinquennat Macron. Puisqu'on le rappelle, l'UNEDIC est géré de cette manière, de manière paritaire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et que normalement, tous les 2 à 3 ans, des négociations ont lieu qui doivent déboucher sur un accord que le gouvernement applique dans la grande majorité des cas, sauf toutes ces dernières années. Mais c'était sans compter sur monsieur Michel Barnier, qui lui veut renouer avec ce bon vieux dialogue social. Alors, des négociations ont eu lieu toute la semaine dernière et le MEDEF a tranquillement avancé ses petits pions. Une des premières choses qu'il a voulu attaquer, c'est le régime des intermittents et intermittentes du spectacle, notamment en durcissant, et pas qu'un peu, les conditions d'accès au régime. Sauf que les intermittents et intermittentes se sont mobilisés très vite. Ça, c'était le vendredi 8 novembre, avec des actions dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, Nantes, Marseille ou encore Lyon, où il y a eu une action devant la direction régionale de France Travail vers Debourg, dans le 7e. Le MEDEF a assez rapidement reculé là-dessus dès le vendredi. Pour l'instant, a-t-il précisé. Affaire à suivre, mais sur beaucoup d'autres points, il a pas reculé et il a pu compter sur ses plus fidèles alliés pour signer. J'ai nommé la CFDT et la CFTC. En bref, dans l'accord, il y a pour les seniors l'âge ouvrant droit à une indemnisation plus longue qui sera rallongée. Par exemple, pour avoir droit à 22 mois et demi au lieu des 18 mois maximum pour les chômeurs et les chômeuses du régime général, il faudra dorénavant attendre 55 ans et non plus 53 ans pour les obtenir. Et il faudra attendre 57 ans au lieu de 55 ans pour avoir droit à 27 mois, ce qui fait une économie de 350 millions d'euros. Il y a également 5 jours de carence en plus pour tous les chômeurs et en moyenne du régime général, économie de 1,2 million d'euros. Baisse 1,2 milliard pardon, d'euros. Il y a ensuite la baisse des indemnisations pour les travailleurs et travailleuses frontaliers et frontalières, une économie ici de 1,4 milliard d'euros. Et tiens donc, une baisse des cotisations patronales qui va passer de 4,05% à 4% du salaire brut. C'est donc un cadeau de 1,5 milliard d'euros qui est fait par le patronat pour le patronat, qui passe donc des poches des chômeurs et des chômeuses qui ont cotisé ou payé la CSG, c'est presque pareil, pour avoir droit au chômage. C'est ce qu'on appelle le salaire indirect. Et donc ça va bien des poches des travailleurs et des travailleuses vers les poches du patronat. Le seul point un peu positif, mais c'est très probablement pour faire plaisir au patronat du tourisme et des saisonniers, c'est la rebascule sur 5 mois du travail minimum au lieu de 6 sur les 24 derniers mois pour ouvrir des droits au chômage. On arrive bientôt à la fin. La ministre du Travail, bonjour madame Astrid Panossian-Bouvet, a d'ores et déjà validé l'accord qui sera donc appliqué en 2025.
Et tout de suite, une cascade de plans sociaux et de suppression de postes. Non.
Avant ça, on va parler de la libération conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah, donc quelques semaines après la mobilisation annuelle pour donc sa libération devant la prison de Lannemezan. Ce vendredi, donc, le juge d'application des peines a accepté enfin la 11e demande de libération conditionnelle du prisonnier politique libanais, mais libération qui est subordonnée à la condition de quitter le territoire national et de jamais y revenir. Victoire historique, certes, mais victoire d'étape, puisque le parquet a fait appel, ce qui signifie que la mobilisation pour sa libération doit se maintenir et que la pression doit continuer. On en a parlé ici il y a à peu près 2 semaines, mais pour rappel, Georges Ibrahim Abdallah est un communiste libanais militant de la cause palestinienne qui a été arrêté en 1984 puis condamné en 1987 pour complicité d'assassinat à la suite d'une instruction à charge. Il est libérable depuis 1999, mais l'État français a systématiquement empêché sa remise en liberté. En 2013, une première demande de libération conditionnelle avait été validée par la justice. Elle était conditionnée à un arrêté d'expulsion que l'État français avait lui-même bloqué, maintenant le militant pro-palestinien en prisonnier. Bref, on espère que c'est bientôt la fin du calvaire.
Et là, on va enfin passer à ces fameux plans sociaux en cascade.
Disons-le clairement, Le gouvernement autoproclamé de Bernier est en train de nous imposer un plan d'austérité d'envergure. Après avoir confisqué les élections en juillet dernier, le gouvernement au pouvoir, sous la tutelle du RN, est en passe d'imposer une politique budgétaire bien vénère. Parallèlement, le patronat français lance une grosse offensive néolibérale. À l'ordre du jour, un plan massif de licenciements. D'Auchan à Michelin, en passant par Valeo ou Vancorex, la CGT relève que 150 000 emplois seraient actuellement menacés. Une véritable saignée industrielle, pour reprendre les mots de Sophie Binet. Crise politique, crise budgétaire et désormais donc crise sociale. En cause, 30 années de néolibéralisme, une politique de l'offre indécente, un agenda économique au service des profits des multinationales qui fait la part belle aux actionnaires, le credo de la compétitivité à tout prix, une fiscalité taillée pour le capital à coup d'allègement des cotisations patronales et la fameuse flexibilisation du marché du travail. Bref, le capitalisme, quoi. Rappelons qu'en France, les emplois dans l'industrie, hors intérim, je précise, s'établissent aujourd'hui à peu près à 3,27 millions d'emplois. Depuis la vague de désindustrialisation entamée dans les années 70, qui a vu supprimer plus de 2 millions d'emplois industriels, la production, elle, est en baisse constante, bien qu'inégalement répartie entre les différents secteurs. L'hiver promet en tout cas d'être chaud. On fait tout de suite un petit tour de France des sites menacés et des luttes déjà enclenchées.
Alors on commence par l'un des principaux sites, même plusieurs sites menacés. Ce sont des sites Michelin qui a annoncé le 5-11, hein, donc Michelin, géant de la pneumatique, a annoncé la suppression de 1254 emplois d'ici à 2026 avec la fermeture de deux sites à Vannes et à Cholet. Alors Florent Mengo, le président PDG de Michelin, s'est vanté pendant des années d'associer rigueur financière et politique sociale, expliquant aujourd'hui l'hécatombe par, je cite, la chute des ventes en Europe, la concurrence chinoise ou la dégradation de la compétitivité en Europe depuis la crise énergétique. Sauf que ce qu'il oublie de dire, c'est que depuis des années, la politique de Michelin, c'est la marge et encore la marge. Du coup, les bénéfices sont monstrueux. Quelques exemples. Il y a eu des résultats records en 2023, 2 milliards d'euros de bénéfices, en 2024, 1,4 milliard d'euros de dividendes et des rachats d'actions, tout en bénéficiant très largement des crédits d'impôt avec le CICE en tête, mais aussi bien d'autres, véritables cadeaux de l'État pour les patrons et les actionnaires. Les annonces sont brutales, dignes de la plus grande violence patronale, et on va suivre la grève de près.
Le groupe Auchan, quant à lui, propriété de la famille Mulliez, 7e fortune de France, annonçait un plan social de 2389 emplois, ainsi que la fermeture d'une dizaine de points de vente, dont 3 hypermarchés à Clermont-Ferrand, en Moselle et dans la Meuse, ainsi qu'un supermarché à Aurillac. Au premier semestre de 2025, selon la CGT, le groupe a réalisé quand même 1,5 milliard de bénéfices, et en 2023, 300 millions pour le seul premier trimestre. Après cette gavée d'aides sociales, on parle ici de plus de 500 millions d'euros entre 2014 et 2019, après avoir profité de l'inflation, le groupe a décidé de préserver son taux de profit au détriment des travailleurs et des travailleuses. La semaine dernière, plusieurs centaines de salariés, des militants et des militantes syndicaux et des habitants du quartier populaire de la Croix de Néret à Clermont-Ferrand ont pris possession pour quelques heures de l'hypermarché promis à la fermeture. Leur message était clair, la lutte contre le licenciement est enclenchée.
Alors on enchaîne tout de suite avec une petite devinette. Monsieur et Madame en faillite ont une fille, comment l'appelle-t-elle? Alors vous trouvez. Eh bien, Mélusine en faillite. Hein, l'usine en faillite, c'est...
Ah bah, on s'y attendait pas celle-là, franchement. Merci à toi.
L'usine en faillite, c'est du moins ce qu'enfante la véritable politique gouvernementale après des années de gavage des actionnaires au détriment des travailleuses et des travailleuses. Et la vague est si grosse que les licenciements semblent toucher y compris ceux qui se pensaient protégés. C'est par exemple le cas du président de la très conservatrice centrale syndicale des cadres, la CGC, qui vient d'être licencié de son usine. Hein. François Meuril, donc le président de la CGC, toujours, était aussi le délégué syndical de l'entreprise Niche Fuse Alumina, qui est placé en redressement judiciaire. Or, la reprise du site ne garde que 119 salariés et en licencie 51. Omeril restera donc à la tête du syndicat des cadres jusqu'en 2026, où il pourra ensuite, à partir de 2026, partir en retraite. Et on peut espérer au moins que son licenciement, qui rendra peut-être la centrale syndicale un peu plus offensive pour lutter contre les plans antisociaux du patronat.
Et le secteur public est également touché par des suppressions de postes et par les effets du projet de budget 2025. Le gouvernement a annoncé plus de 2000 postes supprimés, postes de fonctionnaires supprimés, tout ministère confondu. L'éducation nationale est sans surprise la plus touchée, avec 2000 postes d'enseignants qui disparaîtraient dès l'an prochain. Par contre, à côté de ça, le ministère des Armées, ce serait plus 700 postes. Et donc, ça explique le chiffre de 2000 suppressions de postes dans l'ensemble des fonctions publiques, quand à côté de ça, on augmente dans l'armée, par exemple. Le secteur associatif est également touché, le secteur de l'économie sociale et solidaire, lié à ce budget, mais aussi lié à l'inflation et à l'augmentation des coûts. Ce secteur risquerait de perdre 186 000 postes dès l'année prochaine.
Et on continue, cette fois-ci, c'est l'équipementier automobile français Valeo qui compte 14 000 salariés qui a à son tour annoncé la mise en vente de 3 de ses sites, ce qui menace plus de 1000 emplois sont concernés. Les usines de la Suze sur Sarthe, de Saint-Quentin-Fallavier en Isère, ainsi que le centre de recherche et développement dans les Yvelines. Depuis des années, les salariés sur place assistent au non-remplacement des collègues qui partent à la retraite, à la délocalisation ponctuelle de lignes de production en Roumanie et en Pologne où la main-d'œuvre vrai moins cher. Sur place, l'ambiance est combative. Pendant plusieurs semaines, se sont multipliées les alertes, les mobilisations, les AG sur le lieu de travail et le 17 septembre, il y a même eu une petite visite surprise sous les fenêtres du PDG Christophe Périlla. Depuis le lundi 30 septembre, dans l'usine en Isère, les salariés mobilisés ont décidé de lancer une grève bloquante. Pour terminer ce tour d'horizon, mentionnons également des licenciements prévus chez le fabricant de pièces en acier Wallor, propriété d'un fonds vautour allemand qui emploie plus de 200 personnes dans les Ardennes. L'avenir des 100 employés de l'usine Watts spécialisée dans la robinetterie située dans la Somme. L'usine Vancorex de Pont-de-Claix en Isère où plus de 400 salariés sont menacés par une fermeture après son placement en redressement judiciaire. Et enfin, l'effondrement de l'entreprise de distribution de prospectus de Mili, ex Adrexo, après la liquidation aussi qui menace tous les salariés. Bref, force à toutes celles et ceux qui luttent contre les patrons et on suivra tout ça de près.
Et on continue avec le
local.
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 Et un premier sujet sur le manifeste international pour la Palestine.
Oui, plusieurs collectifs féministes internationaux appellent à une action globale le 25 novembre en soutien à la cause palestinienne pour exiger un cessez-le-feu et dénoncer le génocide, mais aussi contre le sexisme et l'impérialisme. Les collectifs ont écrit un manifeste que nous allons donc lire. Il s'intitule « Pourquoi la cause palestinienne est une cause féministe ?» Manifeste féministe international pour la Palestine. Et en France, les collectifs signataires sont pour le moment l'Assemblée féministe transnationale, collectif Roya Paris, AG Féministe Montreuil, collectif internationaliste United Paris. On le lit de suite.
Pourquoi la cause palestinienne est une cause féministe? Nous exigeons un cessez-le-feu et assumons le terme génocide. Parce que les puissances occidentales, dont la France, encouragent par leur narratif et leur vente d'armes ces massacres. Coordination internationale anticapitaliste.
La Palestine subit un génocide sans précédent commis par l'État sioniste d'Israël en complicité avec le Nord global, les États-Unis et les puissances européennes dont les principales victimes sont les femmes et les enfants palestiniens. Ce génocide est le fruit d'une politique expansionniste et d'une politique d'apartheid perpétrée depuis 75 ans contre le peuple palestinien. Cette politique d'occupation et d'extermination a aggravé l'oppression patriarcale et raciale face à laquelle les femmes et les féministes palestiniennes résistent tout en luttant pour affirmer leur vie et leur liberté. Ce scénario dévoile le lien brutal entre la domination coloniale, patriarcale et capitaliste.
De même, ces politiques colonialistes et expansionnistes israéliennes vont au-delà des frontières palestiniennes et menacent également les territoires d'Abya Yala, alors je précise que c'est l'Amérique du Sud historique, hein, par la vente massive d'armes militaires utilisées contre les manifestants et manifestantes de toute l'Amérique latine. Aussi, par l'installation d'entreprises qui détruisent nos écosystèmes et dépouillent nos territoires, telles que l'entreprise nationale israélienne Mekorot. Nous ne resterons pas silencieux et silencieuses face à la destruction de la vie sous nos yeux, la lutte féministe du Sud global se dresse pour sa défense et contre toute forme d'oppression.
Nous sommes des femmes, des féministes et des dissidentes du Sud global qui ont également souffert des conséquences de la colonisation, de l'impérialisme et des réseaux mafieux du capital de la part du Nord global et des États-Unis sur nos corps et nos territoires. Ce n'est pas une coïncidence que les États européens qui soutiennent l'extermination à Gaza aujourd'hui ont également endossé le génocide systémique climatique de milliers de migrants du Sud qui arrivent sur les côtes européennes à cause des politiques impérialistes et criminelles. Depuis 2014, plus de 28 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée. Parallèlement, la politique migratoire des États-Unis alimente la route migratoire terrestre la plus dangereuse du monde. Face à cela, nous disons haut et fort, la vie des personnes migrantes compte, les vies des Palestiniens comptent.
Israël se présente comme la seule démocratie du Moyen-Orient et se vante de ses politiques ostensiblement favorables aux femmes et à la diversité des genres et des sexualités. Cependant, alors qu'Israël embellit son image avec nos luttes et nos désirs, il assassine des femmes, des dissidentes et des enfants palestiniens et renforce l'oppression patriarcale dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés. La résistance des femmes palestiniennes est dirigée contre l'oppression patriarcale à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine. Mais face à la politique coloniale et expansionniste israélienne, cette lutte contre le patriarcat est aussi une lutte contre la brutalité du colonialisme et de l'occupation. Car la défense de la vie des femmes, des lesbiennes, des travestis, des trans et non-binaires et de leur liberté est aussi une lutte contre toutes les formes de violence et de domination.
Dans ce contexte, nous faisons appel à toutes les femmes féministes et dissidentes à se mobiliser activement pour le peuple palestinien, en particulier ce 25 novembre dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, à rejoindre le groupe d'action féministe mondiale pour la Palestine et à y participer. Nous appelons les travailleuses et les travailleurs à organiser des actions de dénonciation et des mesures pour boycotter le commerce avec Israël qui soutient l'ethnocide et l'apartheid contre le peuple palestinien. Enfin, nous appelons les peuples du monde à promouvoir dans leur territoire la demande d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à se manifester contre toute violence dans les territoires palestiniens.
Aussi, nous manifestons contre toute forme de complicité avec ce génocide. Nous exigeons que les États rompent leurs relations diplomatiques, commerciales et militaires avec Israël. Benjamin Netanyahou et ses complices doivent être jugés par la Cour pénale internationale pour les crimes contre l'humanité commis à l'encontre du peuple palestinien. Nous exigeons des actions concrètes et continues de la part de nos gouvernements et des différentes instances internationales pour arrêter ce génocide et engager un processus de démantèlement du régime d'apartheid qu'Israël met en place sur l'ensemble du territoire palestinien.
Les féministes ont appris à penser et à ressentir de manière non binaire. Notre pouvoir réside dans le fait de penser au-delà des dichotomies qui nous sont imposées par les systèmes de domination. Nous ne tomberons pas dans le chantage qui impose une vision totalisante de ce conflit. Nous sommes contre la logique du terrorisme d'État et de ses expressions qui, tout comme le système patriarcal, repose sur la domination et l'extermination des peuples. L'ethnocide que commet Israël ne menace pas seulement le peuple palestinien. Il s'agit d'une guerre contre l'ensemble de l'humanité et ses actions mettent en péril les chemins pouvant nous amener vers une société sans violence.
Nos corps gardent la mémoire, le savoir et la douleur de nos peuples et résistent à la politique de l'oubli portée par le capitalisme colonial et le patriarcat. L'État sioniste d'Israël, qui a également laissé des millions de personnes handicapées, veut effacer le passé, le présent et l'avenir d'un territoire et faire disparaître les limites de notre humanité. Cependant, nous, femmes, lesbiennes, travestis, trans et non-binaires, féministes du Sud global et anticapitalistes, défendrons la vie, sa mémoire et son avenir. Nous ne permettrons pas que Gaza soit une projection du futur pour les personnes pauvres, racisées, opprimées, exploitées et colonisées du monde. Avec ce manifeste, nous déclarons que les femmes, les enfants et les dissidentes palestiniennes ne sont pas les seules et que derrière elles, il y a les féministes du Sud global. Nous sommes prêts à continuer d'articuler au-delà des frontières et à défendre la vie contre tout massacre. La cause palestinienne est féministe. Dabia Yala au peuple palestinien, résistance féministe. Cessez le feu immédiat, arrêtez l'occupation, viva Palestine libre.
Et on écoute tout de
alors,
suite.
Alors avant peut-être donner le rendez-vous local de jeudi.
Jeudi.
Oui.
Eh ben on le donnera dans l'agenda.
Très bien.
À la fin.
C'est pour ça qu'on l'avait mis au local.
Mais oui. Mais on le donnera à la fin, sans
faute. Bien.
Et du coup, écoutez de suite un reportage sur la répression d'un prof syndicaliste à Saint-Étienne.
Qui arrive tout de suite.
Voici les cadavres. la police ne veut pas voir. Dissimulé au soir, sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées. Ça fait des monceaux de têtes renversées. Les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires. Dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares. Des ponts armés aux trousses qui d'une pointe plongent la course. Dans le caniveau du non-lieu, moins je nettoie les lieux. Et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli. Du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État. Distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Mille barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout. Des pierres et des cocktails balancés à genoux. Ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre gonflés de
noir. On vient d'écouter un morceau de La Rumeur. On a interverti notre programme et on passe tout de suite le reportage qu'on vous a promis sur la répression contre un prof syndicaliste de Saint-Étienne.
Alors aujourd'hui, c'est un rassemblement de soutien à Patrice Chapa qui passe en capa disciplinaire. Mais plus largement, en fait, c'est un rassemblement pour défendre les libertés syndicales. En fait, c'est un collègue à nous, un camarade de la CGT, qui est inquiété en fait dans une procédure disciplinaire parce qu'on lui reproche uniquement, et ce qui est assez inédit, son rôle de représentant du personnel. Dans ces cas-là, quand il y a une commission disciplinaire comme ça qui siège, une CAPA, c'est l'équivalent d'un conseil de discipline dans les établissements scolaires, donc les collègues reçoivent systématiquement une liste de ce qui leur est reproché, et dans l'eau, il y a forcément beaucoup de choses par rapport aux élèves, par rapport aux parents d'élèves, etc. Et là, ce qui est inédit, c'est qu'il n'y a absolument rien de ce domaine-là. Les seuls reproches qu'on lui fait, c'est par rapport à son rôle de représentant du personnel. C'est en fait d'avoir joué son rôle de représentant du personnel, d'avoir joué aussi un rôle de lanceur d'alerte dans l'établissement dans lequel il travaille, où ils ont dénoncé avec toute la section syndicale des dysfonctionnements de cet établissement. Et c'est ce qui n'est pas passé pour notre institution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont convoqués dans une commission qui est la plus importante qui existe dans l'éducation nationale, qui est la CAPA disciplinaire. Il a reçu sa lettre il y a un mois et 10 jours, le 5 octobre, qu'il l'a averti qu'effectivement aujourd'hui se tiendrait cette CAPA disciplinaire. Ce qui est aussi assez rare, c'est qu'il n'avait jamais reçu auparavant d'avertissement ou de blâme, qui sont des sanctions moindres qui existent dans l'éducation nationale et qui auraient permis de dire bah là vous êtes hors des clous, vous ne faites pas ce qu'on attend d'un représentant du personnel, etc. Directement, on a l'impression que l'institution a voulu frapper très fort en réunissant directement une CAPA disciplinaire. C'est un collègue qui est de Saint-Étienne, d'un établissement, d'un lycée professionnel qui s'appelle le lycée Étienne Mimard à Saint-Étienne. Mais effectivement, non seulement de Saint-Étienne sont venus deux bus de 60 personnes chacun, donc on est plus de 100 personnes de Saint-Étienne, plus des voitures, mais il y a également des gens qui sont venus du Rhône, des gens qui sont venus de l'Ain. Puisqu'on fonctionne par académie, c'est le recteur de l'Académie de Lyon qui a décidé de convoquer Patrice Chapin en CAPA disciplinaire. Donc c'est notre employeur à tous, mais on a eu une solidarité interdépartementale et même interacadémique. Nous, on est organisé en académie, on a des camarades qui sont venus nous soutenir de l'académie de Clermont-Ferrand, de l'académie de Grenoble, et on a aussi une solidarité intersyndicale puisque le SNES était présent, Sud était présent, FO était là aussi, j'en oublie peut-être, et on avait une solidarité interprofessionnelle puisqu'on a eu un soutien de différents corps de métier. Puisque en fait, c'est pas juste le fait de soutenir une personne, c'est vraiment de soutenir nos libertés syndicales et le fait d'avoir le droit en tant que représentant du personnel de s'exprimer et de pouvoir dénoncer des dysfonctionnements quand il y a des dysfonctionnements et remettre en question les compétences des personnes qui nous commandent lorsque on juge qu'effectivement le fonctionnement n'est pas assuré d'un établissement. Alors la réforme du lycée professionnel, c'est une des choses contre lesquelles on se bat, puisque en fait il y a différents points qui ne vont pas, notamment par exemple mettre les élèves plus souvent en stage et forcément au détriment des enseignements généraux. Et tant bien même que c'est intéressant et qu'on nie pas l'intérêt du stage, hein, c'est super intéressant d'avoir une mise en pratique, il y a besoin aussi d'avoir des heures d'enseignement général, parce que c'est justement dans ces heures-là qu'on va apprendre des techniques plus larges et pas juste ce qu'a besoin le patron. Et plus on mettra beaucoup de stages en nombre d'heures, moins on mettra d'heures de cours, plus on aura en fait un employé ensuite qui sera corvéable parce qu'il aura appris la technique qui était utile à son patron et pas tout le panel justement du corps de métier dans lequel il est. Et qui aura du coup aussi moins de bagages pour pouvoir se défendre, argumenter, etc. Puisque ça, ça passe à travers souvent les cours théoriques d'histoire, de français, etc. Donc on aura quand même, on pense, des élèves qui deviendront des employés plus malléables et on va enlever des heures d'enseignement aux élèves qui en auraient le plus besoin. Voilà.
Donc, vous venez d'écouter un reportage sur la répression d'un enseignant syndicaliste d'un lycée pro de Saint-Étienne, qui est issu donc d'une interview qui a eu lieu ce vendredi, puisqu'il y avait un rassemblement devant le rectorat de Lyon en soutien à ce syndicaliste de la CGT, et qui avait au moins 300 personnes qui sont venues de Saint-Étienne, de Grenoble, de Lyon, et que la mobilisation va a priori s'installer dans la durée pour soutenir cet enseignant réprimé par l'Éducation nationale. Et puis on va passer à notre petit dossier du jour avec nos camarades cheminots présents ce soir. Donc merci d'être là déjà. Donc voilà, on les connaît, les cheminots. Donc il y a Agathe, cheminote dans le secteur commercial, et notamment pour le secteur du fret, à la CGT Cheminot et membre de la Caisse de Sceaux. Et puis on a Sam, agent d'escale à la gare de Lyon-Pardieu, notamment pour les TER. Alors merci à tous les deux d'être là. On vous a notamment invité car il y a a priori une grève ce 21 novembre à l'appel de l'intersyndicale entière de la SNCF. Alors quelles sont les raisons de cette grève ?
Cette grève ultimatum, je dirais même.
Oui, c'est comme ça qu'elle a été annoncée. Alors cette grève, elle a, on va dire, deux volets principaux. Il y en a un qui concerne le fret dont je vais parler, puis ensuite je laisserai la place à mon camarade pour parler de ce qui va se passer pour TER, et qui parlera peut-être plus facilement à vos auditeurs, puisqu'il s'agit de transport de voyageurs. Moi donc, je m'occupe du fret, qui est le transport de marchandises, et la partie SNCF qui s'occupe du transport de marchandises, à savoir fret SNCF, va être liquidée le 31 décembre de cette année là, donc dans 6 semaines. Elle va être remplacée par 2 entreprises de droit privé qui ne seront plus SNCF, une pour le transport de marchandises, une pour la maintenance, mais bon, ça on s'en fout. Qu'est-ce qui va arriver aux agents de fret SNCF? Et ben, ils vont être automatiquement transférés vers ces 2 entreprises, c'est-à-dire qu'ils n'auront rien fait de mal, ils n'auront pas fait de faute professionnelle, mais du jour au lendemain, ils vont cesser d'être vraiment SNCF. Alors on nous vend le groupe SNCF, mais enfin bon, c'est plus du tout la même chose, hein. C'est vraiment comment dire, un coup de tonnerre pour ces gens qui ont avant tout signé à la SNCF, et ce sera très similaire à ce qui va arriver aux agents de TER dont Sam vous parlera tout à l'heure, donc gardez bien ça en tête. Alors, pourquoi est-ce que fret SNCF va être liquidé en cette fin d'année ? Parce que tout ça, c'est le résultat d'une... Enfin, le résultat. Ça a été déclenché par une enquête de la Commission européenne, qui a déclenché donc une enquête en janvier 2023 de l'année dernière, soi-disant pour aide illégale perçue par fret SNCF de la part de la SNCF pendant 10 ans, de 2009 à 2019. Et en réaction à ça, le ministre des Transports, qui est peut-être le plus éphémère de toute l'histoire, Clément Beaune, qui est resté 3-4 mois, hein, il est resté juste pour prendre cette décision de merde, il a dit « enquête de la Commission européenne », bon, il a fait semblant de résister, de défendre le dossier, puis après il a dit « non, mais je vais prendre les devants, c'est sûr, la Commission européenne, elle va conclure que les aides sont illégales, c'est 5 milliards d'euros, on pourra jamais rembourser, du coup prenons les devants et entamons un plan de discontinuité ». Il faut savoir que dans les cercles de la direction, la discontinuité, c'est abrégé en... C'est long à dire, discontinuité. Hein. Du coup, on dit disco. Voilà, c'est super fun pour eux. Voilà, c'est pas une blague. Donc, non,
c'est marrant quand même.
C'est, voilà. Discontinuité, ils disent discontinuité, mais il faut vraiment entendre liquidation de fret SNCF. Alors que c'est quand même un dossier qui est hyper défendable. On frise, enfin j'allais dire on frise avec la trahison d'État, mais en fait c'est vraiment une trahison d'État. Tout ça c'est l'aboutissement d'un long sabotage, hein, il faut le dire. Donc le fret SN, le fret transport de marchandises par voie ferroviaire est ouvert à la concurrence depuis 2006. Ça a été un peu le pilote, comme on dit dans les milieu de cadre et de gestion de projet à la SNCF pour l'ouverture à la concurrence qui aujourd'hui s'apprête à frapper le voyageur. Donc en 2006, du jour au lendemain, ça veut dire qu'on a demandé à une entreprise, Fret SNCF, qui était publique et qui avait des objectifs en volume. L'objectif, c'était de transporter le plus de choses possible par voie de ferroviaire. On lui a demandé du jour au lendemain de basculer à des objectifs économique et de rentabilité économique, ce qui était rigoureusement impossible. Aucune entreprise ne peut, du jour au lendemain, devenir rentable si ça n'est jamais, d'une part, ce qu'on lui a demandé, et d'autre part, si sa priorité, c'était de participer à l'aménagement du territoire, ce qui, par principe, consiste à investir là où, eh ben non, c'est pas facile d'aller faire du business, mais il faut désenclaver des territoires, il faut faciliter l'activité, et ça veut dire dépenser de l'argent pour ça. Voilà, l'aménagement du territoire, ça a un prix. Là aussi, on retrouve des similitudes avec la fonction transport de voyageurs de la SNCF. Désenclaver les territoires, c'est aussi aller là où il n'y a pas forcément, pour le moment, beaucoup de gens qui prennent le train. Bah, c'est pas grave, ils méritent quand même d'avoir un transport public. Bah, pour le transport de marchandises, c'est un peu la même chose. Désenclaver les territoires, ça veut dire aller là où on ne va pas forcément faire du fric. Et donc, du jour au lendemain, passer d'un objectif à l'autre, c'est rigoureusement impossible. Par conséquent, il n'y avait qu'une seule possibilité pour faire face à cette ouverture à la concurrence, bah, c'était de combler pour la maison mère les déficits chroniques de fret SNCF. Sans quoi, il y aurait eu quoi ? Bah, il y aurait eu des millions de nouveaux camions sur les routes. Parce que voilà, hein, si Fret SNCF doit mettre la clé sous la porte, bah, ça veut dire des camions sur les routes. Et ça aurait évidemment pénalisé l'industrie du pays, les usines du pays avec les salariés qu'il y a derrière, parce que en aucun cas, en 2006, à l'ouverture à la concurrence, il n'y avait encore d'autres entreprises ferroviaires alternatives pour reprendre ce que Fret SNCF à les laisser derrière elle si elle fermait la porte. Donc ça n'était juste pas possible, j'insiste vraiment là-dessus. Il n'y avait pas d'autre choix que d'aider Fret SNCF. Deuxième chose, ces aides, nous les salariés de Fret SNCF, on les a payées. On les a payées parce que tous les ans, on nous a dit, bon alors, c'était rituel, vraiment, notamment les vœux de début d'année, c'était tout le temps la même chose. Bon alors, l'année dernière, c'était hyper dur, mais bon, on a fait des efforts, on s'en est sortis, félicitons-nous. Mais bon, d'autres challenges nous attendent cette année, nous avons des aides de la maison mère, mais en échange de ces aides, il va falloir faire des efforts de productivité. Autrement dit, réorganiser en pagaille, supprimer des postes, ne pas remplacer les départs à la retraite. Il faut savoir que Fret SNCF, entre 2010 et 2019, on est passé de 15 000 à 5 000 salariés. C'est une hécatombe, aucune autre entreprise n'a eu à faire ça, je pense en tout cas des entreprises privées, je ne m'avance pas sur les autres services publics, mais bon, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait d'efforts et on ne peut pas dire qu'on ne les a pas payés. Et à chaque fois, la contrepartie annoncée, c'était vous avez des aides, donc vous devez faire des efforts. Et ces efforts, on les a faits. On les a payés cher, à coup de burn-out, à coup de ben on a en plus il faut dire que bon toutes ces réorganisations on a dû s'auto-former bien souvent parce que l'employeur se dégage de plus en plus de cette responsabilité de concrètement mettre en place les réorganisations qu'il décide lui-même. Hein. C'est bien beau de dire maintenant on sera plus 10, on sera 5, mais alors comment on fait à 5? Oh bah débrouillez-vous. Hein. Voilà, donc c'est votre autonomie. Donc c'est les deux principales raisons pour lesquelles cette liquidation est particulièrement insupportable. On rappelle que la Commission européenne n'a toujours pas rendu ses conclusions, hein, les conclusions de l'enquête qui ont été anticipées par notre bon ministre du transport Clément Beaune de l'époque, qui est dont les décisions ont été confirmées par l'actuel ministre des transports François Durovray, un notoire pro-route. Petite citation.
Avec la direction SNCF.
Oui,
aussi.
Bien sûr, hein, on les oublie pas. Spéciale dédicace. Qui ont le petit, juste pour donner une image du personnage, quand il a été question des aides à apporter aux ferroviaires, son inquiétude c'était oui, mais il faut quand même pas oublier le routier. Le routier, ça occupe 90% des volumes transportés aujourd'hui. Hein. Je pense qu'ils vont bien. Ça donne un petit peu une idée. Ils occupent 90% du paysage, alors que la concurrence était supposée inverser la chute du fret ferroviaire. Bon, c'est une réussite étant donné qu'en 2006, on avait 18% de transport ferroviaire de marchandises, c'est-à-dire l'ouverture à la concurrence. Aujourd'hui, on est à 9%. Comme dirait l'autre, c'est pas un échec, ça n'a pas marché. Donc, pour clôturer là-dessus, ce que j'ai envie de dire aux cheminots qui croyaient en leur direction pendant toutes ces années, ben, c'est que la liquidation de fret SNCF, c'est quand même un aveu d'échec énorme, qu'il ne faut pas se voiler la face et qu'il faut par conséquent se rendre à l'évidence et reprendre les choses en main. Et aux gens normaux, aux citoyens, qui croyaient en leurs institutions, parce que comme tu le disais tout à l'heure, Barnier a quand même volé le résultat des élections, le programme du NFP mentionnait au moins une mise en pause de la liquidation de fret SNCF au nom de l'intérêt général, ça n'a pas marché. Et ben rendez-vous aussi à l'évidence, reprenez les choses en main parce que là on est en train de se faire carotte sévère. Je laisse la parole à mon camarade pour la partie.
Ouais, puisque il y a effectivement l'histoire du fret là qui est bien avancée dans le processus de privatisation, mais qu'en est-il des TER? Dis-nous tout.
Et ben du coup les directions de TER s'inspirent largement de ce qui a été fait à fret, hein. De toute façon, comme disait Agathe, c'est des pilotes, hein. On voit de toute façon globalement les mêmes techniciens directeurs qui viennent de Bouygues, de toutes les grosses boîtes qui ont fait des licenciements massifs ou des grosses privatisations précédentes, EDF ou Orange. Donc on sait que globalement la mission, nous en tant que militants syndicalistes, ça va être de faire l'alerte. Mais on voit que les collègues, ils ont les œillères, quoi. Donc, nous, on fait l'alerte, et puis on appelle à la grève pour que TER ne subisse pas le même traitement que fret. Et on a cette chance, effectivement, comme disait Agathe tout à l'heure, on a les usagers avec nous. Enfin, avec nous, ça dépend.
Ça dépend lesquels.
Mais au moins, on est visible quand on s'arrête de bosser, parce que Il nous voit tout de suite, quoi.
On bloque les flux.
Alors, tu disais que les usagers et usagères étaient avec vous. Qu'en est-il des médias? Puisque, effectivement, on a un peu entendu parler de menaces de grève pour Noël. Par contre, là, il y a eu un petit cheminot bashing. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de quasiment des insultes permanentes sur les potentiels grévistes cheminots dans un certain nombre de médias? C'est insupportable.
Ouais, globalement. Moi, ça fait 10 ans que j'ai plus de télé, donc je le recommande à tous. Et après, voilà, écoutez Radio Canu. Non, après, voilà, ce média, enfin les médias mainstream, on a l'habitude. On sait qu'ils vont du côté du capital. On sait à qui ils appartiennent. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'école de journalisme qui a été rachetée directement par les milliardaires. Ils avaient besoin de faire les choses directement, quoi. Maintenant, de la formation jusqu'à la télé. Non, du coup, après, là, je vois, c'est toujours pareil, c'est démontable en trois arguments, au repas de famille, etc. Mais il faut que les gens aient accès à ces trois arguments-là. Quoi,
bah, alors, genre, vas-y, donne-les-nous.
Bah, défense du service public. Après, malheureusement, on n'est plus capable d'imposer notre calendrier. On est toujours en réaction face au réorg. C'est pas nous qui est... En 2018, on a fait ça en juin parce que le vote était en juin. Là, si on le fait, c'est parce que la privatisation de fret, enfin la liquidation de fret, c'est en janvier. C'est au 1er janvier. Donc voilà, c'est le dernier moment pour agir. Donc il n'y a aucun plaisir. Nous, on défend un service public. Donc ça veut dire que j'ai signé pour travailler les jours fériés. J'ai signé pour du 3-8. Voilà, on a vu les 3-8 disparaître avec la suppression des trains de nuit. Là, maintenant, ils veulent en remettre, mais à chaque fois, c'est plus facile d'enlever que de remettre. Donc voilà, il y a...
Oui, et puis si je peux rajouter un argument, je pense que de l'extérieur, on a l'impression que les cheminots ont fait grève de façon inopinée. Là, cette grève, c'est particulièrement vrai. Elle a été déclenchée parce que en face, on a un mur. On fait jamais grève par pur plaisir. Faut pas oublier que on perd de la thune, que bon, ça a un coût pour nous, mais c'est quelque chose qu'on enclenche lorsque la direction en face refuse d'écouter. Et ça, c'est important. C'est pas, on déclenche pas ça parce que on a un pet de travers. Ça, c'est pas vrai. Donc, dans l'histoire, c'est aussi parce que quand il y a une grève, ben on voit que nous. L'un des inconvénients, c'est qu'on oublie ceux qui sont un peu dans l'ombre, c'est-à-dire la direction, qui refuse d'écouter les revendications. Et malheureusement, bah, c'est le seul moyen de leur faire entendre raison. C'est quand même ça qui est pas normal.
Mais d'ailleurs, là, on a parlé un peu des plans de licenciement un peu massifs qui se pointent là avec cette rentrée. Est-ce que là, dans les perspectives un peu à venir de la fin de cet automne, de l'hiver, est-ce qu'il y a ça discute entre les différents piquets de grève, entre les différentes boîtes menacées, notamment à l'échelle de la région? On a vu en Isère, à Grenoble, à Saint-Quentin-Fallavier, il y a plusieurs boîtes concernées. Est-ce que, voilà, que ce soit au niveau du syndicat ou au niveau des syndicalistes, ça commence à en discuter, ou quels sont, vous, votre avis un peu là-dessus?
À ma connaissance, pour l'instant, ça ne discute pas parce qu'on essaie de mobiliser déjà chez nous. Mais c'est sûr que ce contexte social qui fait que, en même temps, il y a plein de salariés qui vont malheureusement se prendre des coups du capital. On peut espérer que, moi j'espère sincèrement que, par exemple, au niveau du quartier Pardieu, on pourra réactiver plutôt l'AG Interpro. Qui avait été monté pendant le mouvement des retraites, qui était aussi un combat. Alors les retraites, on faisait beaucoup le lien sur les salaires, là finalement c'est un peu, voilà, ça tombe sur les salaires, ça concernait tout le monde. Clairement, je pense qu'il y a possibilité de réactiver ça, en tout cas au niveau de Pardieu. Après, voilà, c'est très local.
On va s'arrêter là pour ce soir. Merci encore.
J'ai
à
juste
vous.
Une ouais, petite vas-y. Chose à oui, dire, dis-nous, c'est que dis-nous. Le 21 novembre, très rapidement, ouais. Le 21 novembre qui arrive, c'est une date un peu spéciale parce que ce sera le centenaire de la grève des sardinières de Douarnenez en 1924, grève qui avait été non seulement menée par des femmes, mais aussi victorieuse, passage de la rémunération de 6 sous de l'heure à 25. Voilà, donc je vous encourage vraiment tous à vous renseigner sur cette magnifique grève, et j'espère qu'elle nous portera chance.
Et que vous ferez tous et toutes grève ce jour-là.
Que l'esprit de Douarnenez soit avec nous.
Et avant le traditionnel agenda, on voulait mettre un début de chanson un peu pour nous redonner un peu du baume au cœur.
Les bonnes recettes de grand-mère, on veut du fret ferroviaire, du fret, du fret, du fret, du fret, du fret.
Eh ben, c'était pas mal, on finit par le traditionnel agenda.
Eh ben, on finira par le traditionnel agenda. et on mettra en ligne la chanson spéciale. Alors, on commence pour demain. Il y a un rassemblement à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. C'est à Louis Pradel, place Louis Pradel dans le premier, à l'appel des collectifs Jamais sans toi et de soutien aux migrants à 17h.
Et donc le 21 novembre, grève à l'appel des syndicales cheminotes contre le démantèlement dont on vient de parler de la filière fret ferroviaire. Donc rendez-vous pour un rassemblement à 11h30 devant le siège de SNCF Voyageurs, Tour In City, 116 Cours Lafayette.
Toujours le 21 novembre, suite à un appel, donc à l'appel qu'on a lu de l'Assemblée féministe, il y a une réunion de coordination qui est organisée donc ce jeudi en présence de camarades qui viennent exprès de Marseille. C'est rendez-vous à 19h à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement.
Et le vendredi 22 novembre, rassemblement contre le génocide palestinien et la guerre au Liban. Rendez-vous à 19h, place des Terreaux, à l'appel du collectif Pour le Liban, de Urgence Liban et du collectif 69 de soutien au peuple palestinien.
Toujours vendredi, plus tard dans la soirée, une rencontre-discussion avec Adi Kalai, animateur de la chaîne YouTube Rêve et Rêve, chercheur en philosophie militaire et juif antisioniste, pour échanger notamment autour de sa vidéo The Gaza Ghetto Uprising. Rendez-vous à partir de 18h30 à l'Amicale du Futur, 31 rue Sébastien Griff.
Et puis ensuite, toujours vendredi, soirée de soutien à la lutte Kanaki, le camarade en a parlé, avec la projection et la discussion autour du film Wana Vat. Rendez-vous à 18h à l'Illégalité. Donc début de la projection à 18h30.
Et si ça vous a toujours pas convaincu, vendredi soir, il y a une autre projection des films, Ne vivons plus comme des esclaves, premier film de Yanis Yoluntas, dans lequel il explore un peu les luttes autogestionnaires européennes. Rendez-vous à 20h dans la salle commune de la coopérative du Moulin, 73 rue Montesquieu.
Et on continue ce week-end chargé le samedi 23 novembre avec la manifestation dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, contre les féminicides et les violences sexuelles et toutes les violences de genre. Rendez-vous à 15h, place Bellecour, à l'appel du collectif Droits des Femmes 69.
Samedi toujours, un cycle d'animation sur les stratégies violentes et non violentes dans les luttes sera organisé par le collectif Lyon à double sens. Mais on sait encore pas trop où.
Et voilà pour cet agenda militant de la semaine. On vous dit, nous, à la semaine prochaine, à la radio ou